Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation. Donc, on vous rappelle que le Festival du Nouveau Cinéma, la 49e édition, est bien sûr en ligne. Généralement, bien sûr, ce festival a lieu en salle. Hein? Et autant Pierre Pageau que Robert Daudelin que moi-même, on passe nos 10 jours, je veux dire, rivés sur un écran à arpenter tous les corridors des salles de cinéma. Et là, c'est un peu différent. J'avoue que pour moi, mais je sais aussi que pour Robert, pour y avoir parlé dernièrement, on a un peu plus de difficulté à trouver nos repères dans ce festival-là. On est moins habitué à regarder les films en ligne. Et pourquoi que je vous mentionne tout ça? Mais c'est parce que cette année, on a décidé de faire les choses un peu différemment. Hein? On a demandé à la jeunesse, hein?
Mais oui.
Hein, Maxime?
Mais oui.
Voilà, Maxime. de visionner la compétition internationale. Généralement, c'est un peu nous qui le faisons, mais non, mais cette année, c'est Maxime.
Ben oui. Hein? Hein, écoute, tu sais, je veux dire, j'en voyais beaucoup au festival avant, ouais, mais... Ouais. Tu sais, je me suis dit, c'est un bon moment. Moi, je suis bien équipé. Fait que je me suis fait un petit setup dans ma chambre. Je peux être couché sur mon lit, écouter mes films avec mes écouteurs dans la noirceur totale et j'ai presque une expérience de cinéma.
Ah ouais, c'est ça qui m'intéressait. Comment qu'on vit, je veux dire, un festival un peu en ligne?
Oui, mais en fait, ce qui est étrange, c'est le fait que là, le choix du FNC, c'était de tout mettre sa programmation disponible en tout temps.
Ouais.
De ce côté-là où, en fait, tu as accès à tous les films tout le temps, c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher que quand, mettons, tu as une passe et tu vois des films. Fait que, mais en même temps, t'es comme le choix est quasiment overwhelming où c'est comme on a beaucoup de choix. Alors finalement, on finit par écouter un ou deux films dans ta journée au lieu d'aller s'en taper 3-4. C'est sûr que c'est pas le même exercice. Là.
Mais ça, c'est quand même intéressant parce que tu l'as vécu en salle.
Mais oui.
Tu sais à quel point que parfois on est à la course. Hein?
Oh,
et là,
oui.
On fait nos horaires pour les gens qui ont vécu ces expériences cinématographiques. On regarde l'horaire. Bon, un film finit à 14h10, l'autre commence à 14h20.
Mais la fameuse course entre les cinémas du parc et le quartier latin.
Effectivement. Et parfois, ben, parce qu'il y a eu une présentation, exemple dans Temps zéro avec Julien, qui a pris 10 minutes, qui a retardé la projection 10 minutes, nos horaires sont changés. Finalement, le film qu'on voulait voir, je veux dire, est plus disponible. Accessible parce qu'on est un peu tard. Donc, effectivement, le fait de pouvoir, je veux dire, être peut-être chez soi,
oui. Hein,
donne une marge de manœuvre qu'on a.
Effectivement, les seuls déplacements qu'on a à faire, c'est entre les frigos et l'ordinateur. Mais,
mais parlons des films. Maintenant qu'on expliquait un petit peu là,
exactement.
Comment on vit ça, je veux dire, un festival en période de confinement. Hein?
Oui. On a une sélection qui a quand même été écourtée,
ouais.
Mais j'ai quand même été surpris. Zoé, quand elle venait à l'émission, elle nous a parlé, elle nous dit la compétition internationale, ça va être très fort cette année. Et je dois dire qu'elle avait raison. C'est vraiment... c'est sûr qu'on a tous nos préférences, mais c'est quand même 10 très bons films qui valent la peine d'être vus. Et dans le fond, je vais commencer par un des premiers que j'ai vus, c'est...
Mais juste pour venir sur les 10 films, ce qui m'a frappé énormément, c'est que c'est des titres, en fait, des réalisateurs moins connus, qu'on connaît, mais finalement des gens qu'on peut découvrir. Et ça, j'ai l'impression qu'on retrouve peut-être un certain esprit hein, du festival qui avait, genre, peut-être la mainmise, en fait. Cet esprit avait peut-être mainmise sur le festival il y a 20 ou 30 ans. Là.
Mais aussi, je veux dire, il y a beaucoup de premiers films dans cette sélection aussi. Donc, le premier dont j'aimerais parler, c'est peut-être celui qui m'a moins conquéri.
Ah oui?
C'est Topside de Celine Held et Logan George. C'est un film américain. Donc, c'est un film qui sort by Southwest, prix spécial du jury. Fait qu'on sent un peu ce côté indépendant américain. Mais c'est quand même une histoire envoûtante d'une jeune mère qui habite en fait avec sa fille dans les souterrains new-yorkais, dans une espèce de bidonville underground. C'est quasiment un côté science-fiction dans l'approche du film. Mais en fait, sauf que le film devient redondant après un certain temps. C'est sûr, évidemment, c'est un coming of age, un peu à la Room, où une fois qu'on sort de cet environnement underground, il y a une découverte, il y a une nouveauté, surtout pour l'enfant et pour la mère, il y a un désarçonnement qui doit se faire. Mais on finit quand même pas par aller par on finit quand même par s'éloigner des clichés à un certain point aussi, ce qui est intéressant pour ce film-là.
Mais quand tu dis nouvelle vague américaine, tu pourrais le comparer à quel film? Y a-tu des titres qui te viennent en tête là, pour.
Je dirais que c'est une esthétique caméra à l'épaule, un peu à la John Cassavetes, réalisme social à un certain point. Vraiment, je pense que le film qui se rapproche le plus, c'est Room.
OK.
Je sais pas si tu te souviens de ce film-là. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Mais c'est ça, c'est cette approche-là aussi, caméra à l'épaule, elle devient pardonnée, fatigante. Il y a un processus de répétition qui se commence et qui jamais finit par dévier ou pour prendre une nouvelle truc. C'est les situations tout le temps, comme après aux 15 minutes, une nouvelle action qui recommence. Donc, ça, c'est le premier film que j'ai vu. Un des premiers films. Là, on va se déplacer. J'ai fait ma section selon les endroits dans le monde. Donc, on se déplace en Amérique du Sud, en fait, au Brésil. Avec le film Desteros de Maria Clara Escobar, qui avait été au Festival du Nouveau Cinéma il y a 7-8 ans, avec un film, un documentaire, Os Dias Como El Se. En fait, dans Desteros, là, c'est une fiction, et on est vraiment dans un rapport philosophique par rapport à la dépression et le deuil et la mort. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est sa structure. C'est une structure en 3 chapitres, sauf que la cinéaste fait un petit changement où la partie 3 arrive avant la partie 2. Donc, déjà là, il y a un propos intéressant et vraiment, c'est on présente aussi des séquences quand même assez décousues. Les dialogues parlent beaucoup un peu à la mélancolia de Lars von Trier, où justement le personnage principal se pose la question de est-ce que c'est mieux de vivre comme une fin du monde à tous où l'humanité s'éteint un moment, elle retrouve un certain réconfort alors que son mari, lui, trouve que c'est mieux de mourir dans son sommeil sans nécessairement en avoir conscience. Donc aussi la peur, et cette peur-là revient constamment dans le film et on sent qu'ils ont un enfant, ce couple-là, et autant que le désir de la mère d'être une bonne mère est présent, autant je pense que ces tendances dépressives finissent un peu par l'atteindre à ce niveau-là.
Mais ce questionnement existentiel est de plus en plus présent dans le cinéma d'Amérique latine. Mm-hmm. Il y a un certain temps, on y a retrouvé un questionnement, je veux dire, fortement influencé là, par l'univers politique, alors que là, on dénote depuis quelques années une certaine forme, tu parlais de mélancolie, une certaine forme de résignation, je sais pas, face aux difficultés de la vie. Hein.
Mais il y a quand même toujours un peu le côté politique qui revient dans le film où le personnage du père se tombe un peu dans l'espèce de répétition bureaucratique là, de frais, de tout qui s'accumule à travers les coups de la vie. Et aussi, quand même, une mise en scène assez respectable où c'est quand même très froid, mais on déconstruit un peu les images. Dans certaines scènes, il y a des plans, des inserts qui n'ont pas rapport à cette temporalité exactement qui s'affichent où on prend en plein milieu d'une scène, on change un peu la perspective. Il y a une scène dans une salle à manger où les deux personnages discutent et ensuite, le plan d'après, c'est cette scène-là qui continue, mais là, cette fois-ci, on est comme derrière la vitre, on voit les saletés dans la vitre de la maison. Donc, ça, c'était le premier film brésilien. Mm-hmm. Le deuxième film brésilien qu'il y avait cette année, c'est Extase de Mauá Pasoni. Mm-hmm. Ce film-là était quand même assez déroutant. C'est la co-écrivaine de The Edge of Democracy qui était nominée aux Oscars l'année dernière. Et c'est son premier long métrage. C'est un mélange entre documentaire et fiction. Documentaire dans la mesure où la cinéaste sort de sa propre expérience personnelle avec ses problèmes avec l'anorexie. C'est un film sur l'anorexie.
OK.
Oui, et dans le fond, elle sort de ses gestes personnels de elle lorsqu'elle était anorexique et de sa mère avant sa naissance, qui était impliquée dans les mouvements politiques et des manifestations. Je pense qu'au début du film, il y a une très belle situation où elle montre une photo de sa mère enceinte dans une manifestation et ça dit que la seule chose qu'elle ressent, c'est la peur. Et donc l'idée en tant que fœtus de couper l'alimentation avec la mère pendant un certain temps et au moment de relâcher une sorte d'extase. C'est ce que ce personnage-là cherche tout au long du film, c'est l'extase.
Mais tu mentionnais au début qu'il y avait une volonté de jouer sur les codes du cinéma en mélangeant un peu le documentaire, la fiction.
Exactement.
Ça s'est vu assez souvent dernièrement, mais en quoi ce film-là, finalement, se distingue de ce type de film où on ne sait plus trop où on se situe, là?
Je dirais que c'est surtout dans la manière dont la cinéaste montre les choses.
Okay.
Dans le cadre, surtout, c'est des cadres très subjectifs. Les images sont fragmentées. On pourrait penser, elle me faisait beaucoup penser à Lucrecia Martel, la cinéaste argentinienne, qui il y a aussi au niveau du film la découverte de la sexualité, qui est quand même amenée avec une certaine tension, mais qui est complètement décomplexée. Donc, je dirais que c'est à partir de ces dispositifs-là que le film finit quand même par, je trouve, se distinguer un petit peu plus que le docu-hybride qu'on voit normalement.
On fait prendre une pause musicale.
Ah oui, c'est
puis,
bon.
Puis on revient parce que t'en as vu plein, hein. T'es vu, hein, les 10, là.
Oui,
on fera pas tout le tour des 10, là,
mais tu vas
nous donner tes grands coups de cœur, là.
Oui, exactement.
Guy Ménard, animation, et avec notre critique en résidence.
Ben oui.
Maxime.
J'aime bien le titre.
Oui. Et donc, la première partie, on s'est un peu attardé aux films d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, mais il y avait énormément de films qui provenaient de l'Europe et même de la Chine.
Hein? Effectivement.
Puis c'est souvent des films aussi qui sont des genre de coups de poing, hein?
Oui, puis des fois, ce sont des risques aussi à prendre en tant que cinéphile. Et donc, le premier film que je vais vous parler, en fait, c'est un film du Lesotho. This is not a burial, it's a resurrection, de Limohang Jeremiah Musesi.
Oh, on recommence dans ça!
je sais pas si je vais être capable. Mais en fait, le Lesotho, c'est situé, c'est en fait une petite nation indépendante de l'Afrique du Sud. Ouais. Et en fait, ce film-là, tout d'abord, c'est un film d'une qualité plastique absolument incroyable. C'est magnifique, les couleurs, ça commence dans une espèce de futur... avec des saisons de couleurs et des éclairages expressionnistes, et on a un personnage qui nous raconte une histoire qui se passe aujourd'hui, qui est l'histoire d'un petit village de Nasareta. Il est un petit village qui, malheureusement, va se faire inonder. Il va se faire complètement inonder. Et c'est, en fait, l'importance de ce territoire-là, c'est un territoire que beaucoup de gens sont décédés au moment où il y avait la peste noire et tout ça. Et les gens se sont comme arrêtés là. Ils ont créé des villages dans ces coins-là. Et on suit un personnage, une vieille veuve, dont le fils est récemment décédé, qui elle aussi un peu attend sa propre mort et qui doit un peu vivre avec le fait que là, ils peuvent plus vivre là exactement parce que ça va être inondé. Et d'entreprendre une espèce d'action... activiste contre un peu contre l'autorité, et dans le fond c'est ce qui est quand même assez le fun dans ce film là c'est que on a tous je perds un peu mes mots, là, mais il y a une présence dans ce film-là, okay. justement, où dans la mise en scène, où on sent que le cinéaste cherche vraiment à montrer... Il y a un poids dans les images qui nous font rappeler ces personnes mortes-là tout au long du film et qui un peu motive le personnage. Il y a tout un apport à la culture.
C'est un premier film? Là, je te pose une question.
Celui-là, je ne l'ai pas noté. Fait que je pense pas que c'était un premier film. Quand j'avais fait mes recherches, je pense qu'il y avait d'autres films qui avaient été réalisés par ce cinéaste-là. Mais donc, c'est ça. Même dans la trame sonore, on a des violons, des chants qui sont joués à l'envers. Et donc, tout ce rapport par rapport aux morts qui est super important, je pense, dans cette culture-là. Et dans le fait de se plaindre un peu aussi de la mort, où il y a beaucoup de chants qui sont faits. C'est super beau. C'est quand même... c'est doux aussi comme film. Là.
On n'en voit pas beaucoup des films d'Afrique du Sud. Oui. C'est assez rare. Bon, bien sûr, lorsque, je veux dire, il y a le festival des films africains, il y en a toujours quelques-uns. Mais
c'est présenté avec le festival... c'était co-présenté avec le festival du film Black de Montréal.
OK.
Mais je trouve que, tu sais, par rapport à ces films d'Afrique, je trouve que c'est un qui se démarque d'un peu la tendance ou d'essayer de tout le temps super narrativiser les films.
Okay.
Je trouve qu'on est vraiment plus dans l'expérience sensorielle. Et en fait, le deuxième film que je vais vous présenter, c'est un film d'Ukraine qui est aussi une expérience sensorielle. Ça se passe comme en 2025, un an après une guerre fictive en Ukraine qui rappelle beaucoup ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et dans le fond, après le suicide d'un de ses camarades, un soldat, Sergei, et la fermeture de son usine où il travaillait, il se ramasse un peu à travailler pour l'armée, à errer dans une Ukraine post-guerre, presque apocalyptique. Mais ce qui est vraiment fort de ce film-là, c'est qu'on te présente des tableaux. Tout au long du film, ce sont des séquences tableaux où la caméra est fixe, mais il y a un incroyable travail de direction d'acteur et de direction du regard dans ce film-là et comment le plan finit par évoluer à travers un cadre fixe qui me rappelle un peu, des fois, un peu le travail de Nuri Bilge Ceylan. Aussi, même au niveau thématique, on trouve un peu les mêmes intérêts par rapport à la noirceur humaine et ce genre de choses-là. Il y a même une séquence qui se passe dans... une séquence d'autopsie qui faisait beaucoup rappeler, là, toute une fois... En Anatolie.
Et au niveau, je veux dire, du travail d'éclairage, parce que dans le cas de Ceylan, le travail d'éclairage est extrêmement important. Hein? Je veux dire que ce soit un travail d'ombre, on est souvent dans des couleurs qui sont plus terre. Qu'on trouve un peu la même?
Totalement. Et en fait, Valentin Vassianovitch, qui est le réalisateur du film, signe aussi sa propre direction photo. Okay. Et signe la direction photo d'un autre film de temps zéro, The Tremors.
Okay.
Et dans le fond, ce film-là n'est pas simplement que de la noirceur. Il y a quand même une certaine touche de lumière, mais une lumière qui est apportée un peu paradoxalement parce que c'est à travers des caméras de nuit, des caméras thermiques en fait. Et donc, il y a tout un propos qui se crée là-dessus. Je ne veux pas en révéler trop à propos du film, mais c'est quand même un truc intéressant.
C'est clair que la lumière dans certains pays de l'Europe de l'Est est toujours un peu ténébreuse.
Oui, effectivement.
Et ça, oui. Et il y en avait un autre film européen qui t'avait énormément fait aussi.
Oui, un petit peu...
dans l'Europe de l'Est, je crois.
Oui, exactement. C'est un film polonais. Okay. Ça s'appelle Kill It and Leave This Town de Mariusz Wilczynski.
Voilà.
C'est quand même assez difficile à annoncer. C'est un premier film, celui aussi, d'animation. Ça, c'est un film d'animation.
On t'a pas donné une facile, Maxime.
Ben non.
On t'a dit, critique en résidence, faut qu'il apprenne.
Exactement. J'apprends les noms
également, bien les prononcer.
En fait, ce que propose le film, c'est un voyage à travers la psyché même du cinéaste. C'est dans le fond, on va vraiment dans la mémoire de la Pologne. En fait, on commence beaucoup dans une espèce de critique de la société polonaise qui est quand même assez violente. Un style d'animation brouillon un peu.
Un film d'animation.
Oui, exactement, un film d'animation. Et dans le fond, c'est on dirait que tout est fait sur une feuille de papier. Même le village, on dirait quand on voit le village au complet, on voit quasiment les délimitations des feuilles de papier. C'est des surimpositions de personnages dessiné à la main. C'est très brouillon un peu, mais aussi c'est noir et blanc et beaucoup usé, mais le rouge revient souvent et de manière assez grotesque. Mais c'est absolument déboussolant comme film. Okay. Le cinéaste va à travers un peu sa vie. Il y a des éléments au départ qui paraissent disparates et qui finalement, vers la fin du film, finissent par s'unir d'une manière qui n'est pas juste linéaire. T'sais, c'est comme il y a des motifs qui reviennent qui sont absolument merveilleux.
Là, on est en plein cinéma artisanal. Là. Je comprends bien. Là, oui, hein, j'ai écouté parler. Là.
Mais c'est un film qui a pris beaucoup de temps à faire. Ouais. D'ailleurs, dans le film, il y a le cinéaste André Vadja qui dans les remerciements et qui fait une voix d'un des personnages.
OK.
Donc, lui, ses voix a été enregistrée avant son décès, genre en 2016. Donc, ça fait comme plus de 5-6 ans que ce film-là est sur les tables. Là.
OK, OK. C'est souvent le cas des films d'animation, surtout des longs-métrages d'animation.
Exactement.
Là.
Mais c'est un film sur la solitude, sur la vieillesse, la violence. Il y a beaucoup de regrets. Et bon, aussi, musicalement, il y a une grosse partie qui est dédiée au jazz et au blues. Puis la fin est absolument incroyable. Je veux dire, c'est les larmes que j'ai versées pendant le festival à date. Là.
Okay.
C'est vraiment venu, c'est touchant aussi.
Puis le dernier film, ben c'est depuis quelques années, hein, le FNC nous surprend toujours avec quelques films chinois. Et là encore cette année, t'as été, je veux dire, ben vraiment ravi.
Je veux dire, mon amour pour le cinéma chinois est peut-être déjà connu, mais c'est un autre premier long métrage d'une cinéaste chinoise qui est allée étudier aux États-Unis, Zheng Lu Jingwang. Okay. Qui est un film qui touche aussi sur la solitude, mais avec une certaine touche d'humour et d'ennui. Un peu à la Jim Jarmusch, on a des plans, c'est en noir et blanc, des plans quand même assez éloignés, surtout. Et surtout au début du film, on joue un peu avec la bonivalence du personnage. Dans le fond, l'histoire du personnage, c'est... On suit une jeune fille dans la vingtaine d'années dont les parents viennent de se séparer. Puis... dans le fond, il y a aussi l'appartement où ses parents habitaient qui est comme un peu absent. Fait qu'elle en profite pour un peu s'occuper et rencontrer certains amis. Et en fait, c'est vraiment au niveau de l'esthétique aussi que le film se démarque. Je veux dire, il y a ce noir et blanc somptueux, doux qui s'accole. Mais il y a certains moments où la cinéaste change complètement de style, où on a des points de vue subjectifs, on dirait une caméra de téléphone qui nous donne comme une proximité au personnage. Des fois aussi, justement, en lien avec Atlantis, il y a littéralement des portions en négatif qui nous font rappeler un peu le propos que...
Je sais qu'on avait parlé un peu la semaine dernière parce que c'était un des premiers films que tu avais vu et je te mentionnais à quel point que toute cette esthétique, je veux dire, que de la réalisatrice devient presque une marque de commerce, un peu de la 8e génération.
Oui. Hein,
parce qu'on l'avait vu l'année dernière également avec certains films où là, on joue beaucoup sur un certain nombre d'imaginaire, mais d'imaginaire qui est vraiment transposé par des choix cinématographiques, par une mise en scène.
J'en avais déjà fait un peu une recherche là-dessus au niveau du travail de Bigan, qui est le cinéaste de Long Day's Journey Tonight, et qui, dans le fond, on est vraiment avec une Chine qui est complètement en totale désillusion, qui est en perte de repère totale, surtout dans le niveau de la jeunesse. Et je pense que le meilleur de se la réapproprier pour certaines personnes, certains cinéastes, c'est à travers le cinéma. Mm-hmm. C'est à travers une cinéphilie avec Internet qui a complètement implosé. Ça veut dire qu'on est parti d'une restriction très, très grande sur les films qu'on pouvait voir à une offre illimitée, et pas non seulement aux grands films, mais aussi aux trucs un peu plus obscurs. Et des fois, les trucs un peu plus obscurs, oui, c'est beau, on va à l'école de Beijing, on étudie le cinéma, mais des fois, on n'a peut-être pas nécessairement l'accès à ça en dehors de l'école. Là, ces cinéastes-là ont accès à ça et peuvent permettre de se sortir un peu de ce...
Il y avait un cadre
de cet univers-là.
Oui, mais la 7e génération avait imposé un peu un cadre qui était très social. Et là, j'ai l'impression que les cinéastes qui, finalement, sont venus après cette 7e génération-là, parce que, je veux dire, le marasme économique, la perte de repères chez la jeunesse, tous ces grands drames sociaux étaient présents déjà en Chine. Mais là, il fallait trouver une façon différente de raconter les choses. Et j'ai l'impression que cette 8e génération passe beaucoup par l'imaginaire, passe beaucoup aussi par ce genre de clivage entre la réalité puis l'imaginaire, par un genre de fraction, je veux dire, au niveau esthétique entre ces deux pôles-là. Oui,
exactement. Le fantasme aussi va prendre une place. Ce que je disais au début, tu sais, c'est comme on est dans une espèce d'esthétique réaliste. Plus le film avance et plus on se rend compte que les ellipses deviennent de plus en plus grandes et que la temporalité, finalement, est peut-être plus fragmentée qu'on pouvait le penser au début du film. Il y a certains plans aussi qui ramènent à Persona. Donc, on est vraiment dans un melting pot un peu de toutes ces choses-là, mais ça reste quand même... toujours en lien avec la thématique du film et avec le fond que le film propose, avec quand même une certaine quand même un certain poids émotionnel aussi qui vient avec, qui est peut-être pas celui de qui est là tenu de stand, mais qui est quand même là dans une manière différente.
Merci beaucoup, Maxime.
Ben, merci, Guy.
Hey, c'était génial. Hein? Donc, notre critique en résidence, mais c'est ben maintenant ton terme. On vous invite, bien sûr, à aller sur le site hein, du FNC parce que les films sont disponibles jusqu'au 31.
Exactement.
Donc, si tu as ouvert finalement un petit peu l'appétit de quelques-uns de nos auditeurs et auditrices, bien, ils peuvent aller sur le site et louer. Toi, tu avais loué la passe pour toute la compétition.
Oui, c'était 80$ pour 10 films, c'est quand même 8$ le film.
Mais là,
surtout pour la compétition officielle, je pense que ça peut valoir la peine si vraiment on veut s'installer devant 10 films, 10 très bons films.
Mais on peut aussi louer un film
exactement.
Sans aucun problème. Ben, c'était tout hein, pour cette semaine. Merci beaucoup, Maxime. On remercie également Pierre Pageot, hein, qui s'est entretenu avec Dominique Leclerc afin de parler des Chiens-Loups, hein, film qui est présenté sur la plateforme Tank. Et nous, on se retrouve bien sûr toujours la semaine prochaine, une semaine de cinéma à Derrière l'image. Au revoir.